Bonsoir. On va donc ce soir essayer de vous présenter nos recherches et notamment l'atlas donc des nouvelles fractures sociales. Je vais vous décrire, je dirais, les mécanismes de la dynamique sociale des territoires aujourd'hui. Et puis, Christophe se penchera sur des points plus précis dans un deuxième temps. Donc, on a essayé de réaliser un nouvel atlas des fractures sociales pour une raison qui est qu'aujourd'hui, en fait, on est sur une dynamique urbaine et foncière. Qui dit ce qu'est aujourd'hui notamment la crise des classes moyennes. On a une géographie sociale traditionnelle, une géographie urbaine traditionnelle qui en général ne prend pas en compte des dimensions très sociales qui ont été notées notamment dans l'article qui vient d'être cité et qui en fait aujourd'hui permet une recomposition sociale de l'ensemble des territoires. Donc ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de constater à quel point les dynamiques sociales, les dynamiques urbaines sont aujourd'hui liées. Hier, je dirais dans les années 70, on avait cette idée qui finalement est aujourd'hui encore présente dans l'esprit de nos politiques, que si les villes s'étalaient, c'était aussi et surtout parce que on avait finalement des classes moyennes en phase d'ascension sociale qui allaient chercher finalement un logement dans le périurbain à l'écart des villes, notamment pour des raisons, je dirais, environnementales, mais toujours dans une logique d'ascension sociale. C'est cette logique qui est aujourd'hui de plus en plus déstructurée. Et ce qu'on a essayé de faire dans cet atlas, c'est de comprendre comment s'organisait cette nouvelle recomposition du territoire. Donc, ce qui est aujourd'hui assez prégnant, c'est finalement la spécialisation des grandes métropoles. On voit de plus en plus une concentration dans les grands centres urbains, dans les grandes métropoles, des catégories sociales les plus aisées, des couches supérieures, qui investissent les centres urbains et notamment les quartiers populaires. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Cette gentrification est importante parce que c'est elle qui initie le mécanisme, cette centrifugeuse qui, au final, aboutit à de nouvelles ségrégations. La métropolisation, aujourd'hui, elle est aiguillée par une recomposition économique. On a vu ces 20 dernières années une spécialisation de plus en plus forte des grandes métropoles vers des emplois donc très qualifiés, des emplois tertiaires et mécaniquement des emplois qui ont attiré des catégories supérieures et des cadres supérieurs. On le voit d'abord à Paris, ensuite dans les grandes métropoles et puis aujourd'hui dans les villes moyennes. Ces catégories supérieures investissent prioritairement donc les quartiers populaires des grandes villes, c'est la gentrification, et on assiste peu à peu à une relégation de plus en plus marquée des couches populaires en dehors des grandes métropoles. Alors, je dirais que dans les années 70, ce mécanisme avait été analysé comme une logique finalement assez liée à la moyennisation de la société française. Les salariés finalement partaient des villes pour accéder à la propriété et faisaient donc un choix résidentiel qui était de quitter la ville. Cette image ou ce constat est en train d'évoluer très très fortement, puisqu'on constate que le choix résidentiel est souvent un choix par défaut, c'est-à-dire qu'on choisit d'aller habiter là où on peut plutôt que là où on veut. Et cette recomposition sociale suit aussi une recomposition économique très forte, puisqu'on a vu ces dernières années une désindustrialisation des ville et donc d'un marché de l'emploi, je dirais ouvrier, qui s'est délocalisé des centres vers les périphéries. Aujourd'hui, le périurbain accueille les industries, accueille un marché de l'emploi ouvrier et peu qualifié, et on a vu finalement une recomposition économique qui s'est installée plus ou moins partout, je dirais, sur l'ensemble du territoire. Avec ces logiques économiques, on a derrière des logiques sociales très très fortes, puisque le logement, je dirais, ouvrier, qui était très présent dans les grands centres urbains, tend aujourd'hui à disparaître. C'est la disparition du parc privé social de fait, qui accueillait historiquement les couches populaires dans les grandes villes, et qui aujourd'hui tend à disparaître. Donc, ce qui est quand même très 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 important aujourd'hui, c'est de souligner que les catégories populaires n'ont plus, je dirais, leur place dans les grands centres urbains. La raréfaction de l'offre de logement est aujourd'hui de plus en plus marquée. Les catégories, je dirais, ouvriers et employés n'ont plus accès ni au logement social, ni au logement, je dirais, privé, social de fait, ce qui fait qu'on a une répercussion dans le périurbain et aussi dans les espaces ruraux, puisqu'aujourd'hui les espaces ruraux accueillent prioritairement les ménages les plus précaires, mais aussi les ménages ouvriers. Donc là, on a vraiment des logiques qui s'imbriquent les unes aux autres avec une recomposition du territoire. Je vais passer la parole à Christophe qui va préciser quelques points.
Alors peut-être d'abord sur le thème de périurbanisation, parce que au fond c'est peut-être pas si clair que ça sur ce que cela signifie. Donc c'est autour de l'urbain. En fait, en géographie, on appelle périurbain les secteurs de campagne qui sont situés autour des villes et qui vivent complètement sous la domination de l'espace urbain. On a l'habitude de saisir ces espaces au travers d'un indicateur qui est la part des ménages qui travaillent dans ces espaces, qui travaillent à la ville, mais qui vivent dans ces espaces et qui donc font une navette quotidienne le matin pour se rendre au travail et le soir pour rentrer. Un des éléments, et peut-être pour remettre tout ça dans une perspective historique, qui assez souvent est intéressante en termes de géographie, c'est une des raisons pour lesquelles on a utilisé le terme de « nouveau », c'est que cette périurbanisation existe depuis les années 70. Elle est très fortement liée à l'automobile, qui a donné aux ménages une grande liberté de choix. Et à cette époque, elle correspond véritablement à un choix de vie. Dans les années 70, les valeurs de la ville sont assez critiquées. L'engorgement, la pollution, éventuellement la délinquance, amène un certain nombre de ménages, généralement plutôt moyens, voire supérieurs, à faire le choix d'un départ dans le périurbain. Ça leur permet accessoirement d'accéder à la propriété dans des maisons, dans un premier temps maisons anciennes qui sont rénovées, puis ensuite dans des maisons qui seront construites à cet effet. Mais on a là un mouvement qui est à la fois très positif et qui correspond à une ascension sociale. Si nous avons utilisé le terme de nouveau, c'était pour qualifier à l'intérieur de cette dynamique le fait qu'aujourd'hui, les ménages qui sont concernés par ce mouvement de départ en périphérie le sont plus souvent en termes de contraintes qu'en termes de choix. Ça n'est plus le choix d'une vie nouvelle, c'est l'impossibilité de se trouver un logement décent à un prix abordable au centre de la ville. Alors ça induit un certain nombre de conséquences. D'abord parce que pour un ménage, c'est jamais très agréable d'avoir à subir un choix plutôt qu'être dans le positif d'un souhait initial. C'est surtout que ce départ en périphérie, au bout du compte, c'est un départ assez risqué. Ces ménages ont souvent des revenus moyens, voire modestes. Or, dans les périphéries, les seules possibilités sont l'accession à la propriété. Ils accèdent donc à la propriété dans des conditions qui sont très limites financièrement, c'est-à-dire au taux d'effort, comme on dit techniquement, maximum, donc en gros 30% de leurs revenus qui passent dans les remboursements de l'emprunt. Et le moindre accident de vie, le chômage de l'un ou de l'autre, une maladie, un arrêt maladie, un problème familial, le divorce notamment, qui est un effet très perturbant pour ces ménages, va se traduire par une sorte de piège. Ces ménages se retrouvent dans la logique infernale du surendettement, ils ne peuvent plus rembourser. Pour certains d'entre eux, ils seront expulsés. Alors, on est là évidemment sur une logique qui n'a plus du tout rien à voir avec le rêve idyllique du départ à la campagne des années 70, et c'est ce qui pour nous justifiait le terme de nouveau. Alors, toujours dans une perspective historique, rappelez peut-être que la géographie traditionnelle sociale des villes, c'est une géographie qui s'est édifiée au XIXe siècle avec l'industrialisation. À cette époque-là, l'industrie se développe majoritairement dans les villes, et donc vont se créer dans toutes les villes, en France comme ailleurs, une sorte de ville à deux faces. D'un côté, la ville industrielle qui devient aussi une ville ouvrière, et de l'autre côté, la face bourgeoise, les classes tertiaires, même si on n'appelle pas ça encore comme ça. Donc presque toutes les villes françaises, et je pense que vous avez bien en tête cette géographie, elle est encore assez active dans toutes nos villes, sont caractérisées par cette double face, la face bourgeoise de la ville et la face ouvrière. Une des nouveautés récentes, c'est qu'en raison, mais Christophe l'a rappelé tout à l'heure, du changement de l'emploi dans les villes et de l'augmentation très forte de l'emploi tertiaire, un certain nombre de cadres supérieurs vont devoir trouver à se loger dans les villes, et ils vont finalement partir à la conquête des quartiers ouvriers. C'est ce que Christophe a appelé la gentrification. Ça peut paraître comme ça un phénomène anodin, d'autant plus qu'au début, on a pensé que c'était un phénomène strictement lié aux très grandes villes. On a commencé à étudier ça sur New York, sur Londres, puis un peu sur Paris, et on a longtemps considéré que c'était spécifique aux très grandes villes. Ce dont on est en train de se rendre compte au cours des dernières années, y compris très récentes, c'est que ce phénomène est en train de se diffuser dans toutes les villes importantes, ce qu'on appelle les métropoles, mais aussi les villes moyennes, par exemple des villes de la taille de Quimper. Ce phénomène, il est extrêmement important parce qu'il entraîne des effets multiples, des conséquences qui s'enchaînent. La première d'entre elles, c'est que le parc de logements dans lequel s'installent ces cadres supérieurs, qu'ils rénovent, c'est traditionnellement le lieu d'accueil des populations modestes en ville. Contrairement à ce qu'on croit et ce que l'on dit souvent, le logement social n'a jamais, en tous les cas historiquement, consisté en un accueil des populations modestes. Ça, c'est une fonction qu'il a aujourd'hui. Historiquement, le parc social, c'était le logement des travailleurs, donc il était très directement lié aux ouvriers. Donc dans les années 70, la plupart des ouvriers vivaient dans le logement privé, c'est toujours le cas aujourd'hui, majoritairement les populations modestes vivent dans le logement privé, et possiblement, lorsqu'il en existait, dans le parc social. Ce mouvement de gentrification a une conséquence très violente, et je crois que tous ici on peut le constater, parce qu'elle se traduit par l'évolution des prix, dont on a tous bien vu que l'évolution des prix immobiliers dans les villes ont pris une envolée tout à fait considérable au cours de ces 10 ans, et cela se traduit par la disparition de l'offre de logement en direction des ménages modestes. Cette disparition, elle est très vive, de l'ordre de 10% par an, c'est-à-dire tous les ans, 10% des logements qui avaient des bas loyers dans le parc privé disparaissent. La conséquence, elle est fort simple, c'est que, faute de pouvoir se loger dans ce parc privé, les ménages modestes se rabattent sur le logement social, qui devient la seule solution. Première des conséquences, là aussi, c'est quelque chose de très connu, c'est l'explosion du nombre de demandeurs de logement social. Aujourd'hui, en France, on estime à peu près, et pour les estimations les plus modestes, qu'il y a 1 million de ménages en attente d'un logement social. Donc ça vous donne l'ampleur du phénomène. La deuxième conséquence, c'est que non seulement ça entraîne une très forte augmentation de la demande sur le logement social, mais ça oblige le logement social à avoir une autre fonction qui n'était pas sa fonction initiale et qui va devenir accueillir les pauvres. C'est une fonction qui vient d'apparaître dans le parc social il y a une quinzaine d'années, qui est un mouvement très rapide et qui se traduit par la concentration de ménages très pauvres dans les quartiers d'habitat social. Ça pose tout un tas de problèmes. On a même créé une politique spécifique pour gérer ces problèmes. Ça s'appelle la politique de la ville, parce que la concentration des difficultés sociales génère un certain nombre de dysfonctionnements. Mais l'autre effet caché de cette crise du logement social, c'est que, du coup, les ménages travailleurs qui trouvaient là habituellement un logement habituel, traditionnel, ne peuvent plus y accéder, soit parce qu'ils ne le souhaitent pas, parce que l'image du quartier est très dégradée, soit parce que tout simplement le temps d'attente est beaucoup trop long pour obtenir un logement. c'est un des phénomènes qui explique l'ampleur de l'exil de ces populations à l'extérieur. Et vous avez souligné tout à l'heure que toutes les études qui s'appuient sur le recensement qui vient d'être terminé, les résultats 2004-2005, montrent que les plus fortes croissances sont toutes situées en grande périphérie des villes, c'est-à-dire là où atterrissent d'une certaine manière les ménages qui n'ont pas pu se loger en centre-ville parce que c'est trop cher, ne peuvent plus accéder au logement social parce qu'il est trop dévalorisé ou trop long à obtenir, et qui donc n'ont d'autre solution que d'aboutir dans les campagnes, sous forme de lotissements d'ailleurs dont la qualité architecturale est souvent assez moyenne, et dont on pourrait souligner d'ailleurs que, alors que les terrains ne manquent pas, souvent c'est des tout petits terrains, des petites maisons, tout ça est très exigu et très éloigné de l'emploi. Une des conséquences pour ces ménages, en dehors du risque financier, c'est évidemment qu'ils se retrouvent à devoir faire des navettes. Alors, dans les villes moyennes, elles sont encore raisonnables, aussi bien en termes de kilomètres. On est plutôt sur des rayons de 20 à 30 kilomètres. Donc, un voyage d'une demi-heure entre son domicile et son travail. Dans les grandes agglomérations, et avec le cas tout à fait exceptionnel de Paris, on atteint des niveaux de 100, 110 kilomètres entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi, et évidemment une navette qui prend de 2 à 3 heures par jour, ce qui accessoirement peut avoir un certain nombre de conséquences tout simplement dans l'équilibre de la famille. Enfin, on imagine bien une mère qui est obligée de faire 3 heures de transport quotidien, elle aura moins de temps et moins de disponibilité pour sa famille, ce qui ajoute au facteur de la crise. Alors, un des éléments les plus significatifs de cette crise, c'est l'envolée, on pourrait dire hors de contrôle, mais c'est très gentil, des prix de l'immobilier, qui sont sans doute la meilleure image de cette crise. Lorsqu'on dessine sur une carte ou sur un graphique la répartition des prix du logement du centre vers les périphéries, partout on retrouve la même logique. Les prix les plus forts sont au centre, et plus on s'éloigne du centre-ville, et plus les prix décroissent. C'est une grande logique de l'économie immobilière, mais elle a pris ces dernières années une ampleur telle qu'elle oblige les ménages à aller dans des situations très éloignées, dans lesquelles, accessoirement, l'éloignement de l'emploi fait que si vous perdez un jour votre emploi, les possibilités d'en retrouver un sont très difficiles. Principalement parce que retrouver un travail, ça suppose d'être mobile, de se déplacer, d'avoir un marché de l'emploi à proximité. Or, quand vous êtes à 40, 50 kilomètres des centres d'emploi dans lesquels se concentre l'emploi, vos possibilités de retrouver un emploi sont très limitées. Lorsque vous êtes en plus en train d'accéder à la propriété, vous ne pouvez pas déménager très facilement, surtout quand votre emprunt a été fait dans des conditions financières un peu tendues. Donc tout cela se traduit par des fragilités pour les ménages, et je crois qu'il faut souligner que, en fait, ce que l'on voit au travers de tout cela, c'est le résultat de 25 ans, 35 ans, je ne sais plus combien il faut dire, de ce qu'on a appelé la crise économique, sauf que, à force qu'elle dure, on peut manifestement plus appeler ça une crise. Une crise, c'est quelque chose qui dure assez peu, et qui est violent et brutal, mais qui a une fin assez rapide. Finalement, cette crise, c'est plus le changement d'un système économique. Et je crois que vous avez eu l'occasion d'entendre Castel, qui, je ne doute pas, vous a très bien expliqué toutes les questions de la précarisation du monde du travail aujourd'hui. Et c'est évident qu'on a là une des conséquences de cette précarité qui transpire et se diffuse dans l'ensemble de la société. Alors, à ce titre, et je repasserai ensuite la parole à Christophe, il faut sortir d'une idée qui est très communément véhiculée par les médias et qui consiste à présenter la société française comme une sorte de société à deux vitesses, où il y aurait d'un côté les exclus, les très pauvres, ceux qui n'ont pas de travail, et le reste serait constitué, on utilise des fois le terme de classe moyenne, par une vaste classe moyenne qui s'en sortirait pas trop mal. En réalité, quand on regarde les choses précisément et statistiquement, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a en gros 30% des ménages français qui ont des revenus très modestes et qui oscillent entre précarité et pauvreté. Le pauvre d'aujourd'hui, ça n'est pas l'image qu'on a en tête de la personne qui est prise dans une situation de pauvreté depuis 20 ans et probablement n'en ressortira pas. Le pauvre d'aujourd'hui, c'est la famille monoparentale, la femme donc qui vient par exemple de divorcer, qui se retrouve avec ses enfants et sans emploi. Elle va être pauvre une année, deux années, et puis elle va s'en ressortir. Ça va être quelqu'un à qui on va obliger de prendre un travail à temps partiel. On estime aujourd'hui en France qu'il y a 1 million de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent mais qui, tout en travaillant, n'ont pas un niveau de vie qui leur permet de passer au-dessus du seuil de pauvreté. Bref, un ensemble de populations qui oscillent entre une situation de fragilité économique et puis, par moment, à des moments de crise de la vie personnelle, la pauvreté. Alors, c'est très important d'avoir ça en tête parce que l'idée ou l'objectif, y compris en termes politiques, est très différent. Si on a l'idée qu'il y a en France 6% de pauvres et que si on les aide, ben, ma foi, le problème sera réglé. Bon, on voit bien, ça suppose peut-être un investissement financier important, mais la perspective est assez positive et surtout assez proche. En revanche, si on commence à raisonner sur le fait 30%, c'est-à-dire presque un tiers des ménages français, sont dans des fragilités économiques, on est évidemment sur une ampleur de problème tout à fait différent. Alors, une des conséquences de cette vision de fausse de la société française en deux groupes qui s'opposeraient, elle se traduit par la focalisation des pouvoirs publics et des politiques publiques sur les quartiers d'habitat social et sur la question de la politique de la ville. Je pense que vous l'avez tous constaté, il suffit de regarder les informations 3 jours d'affilée pour on parle des quartiers, de la crise sociale, de la crise des banlieues. Il est vrai qu'il y a une crise dans les banlieues, mais elle est très loin de résumer l'ensemble des crises et des précarités qui traversent aujourd'hui la société française.
Oui, c'est très important de souligner que la crise des quartiers sensibles, la crise des banlieues, ne résume pas la question sociale. C'est-à-dire que c'est ce qu'expliquait Christophe, c'est-à-dire que on n'est pas dans la thématique de l'exclusion. La thématique de l'exclusion aujourd'hui, c'est de dire effectivement, il y a les pauvres d'un côté et une société moyennisée qui va pas si mal. Les quartiers difficiles, les quartiers de banlieue, c'est vraiment la lecture spatiale de cette question. C'est-à-dire que la thématique de l'exclusion, elle est identifiée comme étant la thématique des quartiers sensibles. Les quartiers difficiles aujourd'hui en France ne résument pas la question sociale, tout simplement parce que les quartiers de logements sociaux, aujourd'hui, ont une autre fonction. C'est-à-dire que la fonction du logement social, Christophe l'a dit tout à l'heure, était effectivement d'accueillir des gens qui travaillaient sur des pôles d'emploi, notamment ouvriers, dans les centres urbains. Aujourd'hui, la crise des banlieues, la crise des quartiers de logements sociaux, n'est pas la crise de la classe ouvrière, n'est pas la crise des couches populaires. Elle est la crise de quartiers, aujourd'hui, totalement déconnectés du marché de l'emploi des grandes métropoles. Hier, les banlieues ouvrières fonctionnaient. Il n'y avait pas de mixité sociale, ça fonctionnait, c'était intégré culturellement. Pourquoi ? Parce que effectivement, les gens qui habitaient là avaient du travail sur le marché de l'emploi local, souvent industriel. Aujourd'hui, la crise des banlieues, c'est la crise de la déconnexion de ces quartiers de logements sociaux au marché de l'emploi local. Comme je le disais tout à l'heure, les industries se sont délocalisées, mais par contre, le logement social ne s'est pas délocalisé. Il est toujours situé dans le centre. Et ce qui est très important, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, les quartiers de logements sociaux ne sont pas à la périphérie des villes, mais du fait de l'étalement urbain, au centre des villes. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Ce qui pose problème et ce qui est, le nerf de la crise des banlieues, c'est cette déconnexion à un marché de l'emploi des grandes métropoles qui s'est spécialisé vers de l'emploi très qualifié. Donc on voit bien que résumer la question sociale à la crise des banlieues, c'est totalement occulter en réalité la question sociale. C'est-à-dire que la question sociale aujourd'hui, elle se pose pour la classe moyenne en général. Et on voit bien que le jeu institutionnel, le jeu des politiques aussi, je dirais, et des médias, quand vous surmédiatisez la question des banlieues, vous êtes en train de résumer la question sociale à des espaces très réduits. Donc au final, il y a l'idée que c'est gérable. C'est gérable en réinvestissant plus ou moins ces quartiers, ce qu'on est en train de faire avec les opérations de démolition-reconstruction. Et finalement, il y a une vision, je dirais, qui est assez emblématique, c'est celle de ces barres d'immeubles qui s'écroulent, qui sont démolies, et cette reconstruction de pavillons à la place. Donc il y a l'idée sous-jacente qui est les pouvoirs publics agissent sur la question sociale, agissent sur le destin de la classe ouvrière, entre guillemets. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que les quartiers de logement sociaux n'ont plus la même fonction. Et parallèlement, on a une question sociale qui est aujourd'hui, évidemment, pesante pour l'ensemble des classes moyennes. C'est-à-dire que la crise des classes moyennes, c'est aussi la fin du mythe de la classe moyenne. Ce qui est très intéressant, c'est quand on pose la question aujourd'hui à un ouvrier comme à un cadre supérieur, avez-vous le sentiment de faire partie de la classe moyenne ? L'ouvrier vous répond oui, le cadre supérieur vous répond oui. C'est-à-dire qu'il y a l'idée finalement, l'idée de la moyennisation, qui finalement est un héritage des Trente Glorieuses, c'était l'idée finalement qu'il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'inégalité sociale, et la question sociale finalement elle est plus ou moins évacuée. On assiste aujourd'hui à une reformation non pas des classes sociales au sens historique, au sens de lutte des classes, mais réellement, je dirais qu'il y a une recomposition sociale qui est de plus en plus marquée et qui touche l'ensemble des classes moyennes, avec d'un côté on a les couches populaires, ouvriers et employés, notamment du secteur privé, qui sont les plus aujourd'hui victimes de la mondialisation et de la précarisation de l'emploi, et de l'autre des catégories supérieures qui, elles, vivent plus ou moins bien la mondialisation, la recomposition urbaine et sociale. Et donc on voit bien que se recompose, je dirais, peu à peu, un conflit, je dirais, latent ou sous-jacent entre des couches sociales différentes. Alors le périurbain et les espaces périurbains sont concernés au premier chef, parce que le périurbain, c'est d'abord l'espace où l'État est absent. Ce qui est très notable sur les espaces périurbains et ruraux, mais notamment périurbains, ces espaces où effectivement on a de plus en plus de gens qui s'installent, c'est que l'État est absent. Ce sont les espaces du sous-équipement. Quand vous prenez la carte de l'équipement des territoires en France, le périurbain apparaît clairement comme la zone blanche, la zone où effectivement l'État est absent. Alors c'est important parce que ce sont aussi des catégories qui travaillent dans le privé, ce sont aussi des catégories et des ménages qui sont peu syndiqués, des catégories qui sont peu investies dans la sphère publique, peu investies dans le monde associatif. On a bien là des franges urbaines et périurbaines totalement déconnectées et de plus en plus de la sphère publique. Et ce qui est très problématique, c'est qu'elles ne sont représentées par aucun parti, par aucun syndicat, par aucune association. On a bien des espaces où l'État est absent et qui posent de véritables problèmes politiques. Aujourd'hui, ces espaces sont aussi les espaces qui votent le plus aux extrêmes, qui votent le plus en direction du Front National, qui s'abstiennent le plus. Bref, on a une déconnexion très très forte de ces espaces périurbains et ruraux avec, je dirais, par rapport aux espaces centraux. Donc, on a bien cette France à deux vitesses. La France à deux vitesses, c'est pas d'un côté les quartiers sensibles et de l'autre une société moyennisée. C'est une France de plus en plus fragilisée du fait de la mondialisation et de la précarisation de l'emploi, qui est très localisée dans les franges périurbaines et rurales, et de l'autre, une France, je dirais, mieux intégrée, voire hyper intégrée à l'économie mondialisée, qu'on va retrouver dans les espaces centraux. Alors, c'est en train de se mettre en place, cette recomposition sociale et politique, et ça a déjà des incidences. Si vous regardez la carte électorale du référendum de 2005, on a bien là des espaces centraux qui ont massivement voté oui, et des espaces périurbains et ruraux qui ont manifestement, et en général, voté plutôt non. C'est vrai à l'échelle des grandes métropoles, mais ça se retrouve aussi dans des logiques de villes moyennes. Cette question, elle est vraiment centrale. Elle est peu portée par les politiques parce qu'elle est très complexe. Elle est très complexe parce qu'elle remet en cause ce qu'on appelle le modèle social français. C'est-à-dire que derrière tout ça, derrière cette recomposition spatiale, cette recomposition sociale, il y a aussi l'idée que le modèle social français est réellement en crise. On a bien là, dans les espaces périurbains, ouvriers, populaires et ruraux, on a cette France qui souffre, cette France qui est essentiellement, qui est le plus touchée par le chômage et la précarité, et aussi, ça c'est très important, c'est une France qui n'a plus l'espoir de voir ses enfants accéder à un meilleur statut social. Quand on observe par exemple la carte du chômage des diplômés en France, qui a été très médiatisée d'ailleurs à partir des quartiers de logements sociaux, à partir des banlieues, on a fait beaucoup de, il y a eu beaucoup de reportages et d'articles sur effectivement les chômeurs diplômés dans les quartiers difficiles. En réalité, la carte du chômage des diplômés recouvre à peu près la carte du périurbain et des espaces ruraux et industriels. C'est important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens qu'on pense faire partie d'une classe moyenne hyper intégrée sont en train, peu à peu, de basculer de l'autre côté, je dirais, d'une intégration réussie. C'est-à-dire qu'on est, bien là sur des espaces qui semblent peu à peu se désolidariser culturellement de ce qu'est aujourd'hui le discours politique, je dirais, des grands partis. C'est un vrai problème parce que ces espaces, on l'a pas dit, mais c'est important de le souligner, représentent aujourd'hui entre 40 et 50% de la population française. On n'est pas sur du marginal. Hein. Ce sont des espaces où effectivement la croissance démographique est très très forte. Donc se pose un problème politique majeur. C'est-à-dire que c'est pas seulement la question de l'équipement rural dans telle et telle commune. On est bien là sur un choix politique. Le choix politique, il est aujourd'hui comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent répondre aux besoins sociaux qui sont de plus en plus forts dans les espaces ruraux, dans les espaces périurbains. Lors de nos missions, on rencontre très souvent des maires, et il y a notamment des maires de communes rurales qu'on rencontre et qui se plaignent de ne pas pouvoir répondre à la demande sociale nouvelle des nouveaux arrivants. Parce que clairement, quand vous avez dans des petites communes des ménages précaires, voire au chômage qui arrivent, c'est très très lourd à gérer socialement. Sauf que ce sont des espaces qui n'existent pas politiquement. Donc ça ne suit pas. C'est-à-dire que tant que, je dirais, cette France périphérique, pour aller vite, périurbaine et rurale, n'existera pas culturellement, n'existera pas politiquement, il va être très difficile, derrière, de faire avancer l'idée qu'il faut une redistribution sociale en direction de ces espaces-là. Parce que tant qu'on aura en tête l'idée que les espaces périurbains et ruraux sont les espaces de la classe moyenne, aucun politique ne s'engagera, je dirais, politiquement pour qu'il y ait un vrai débat ou une vraie redistribution autour de ces espaces. Parce que ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire remettre en cause les dysfonctionnements du modèle social français. Donc il est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus simple de réinvestir les quartiers dits difficiles, d'organiser des opérations de démolition-reconstruction qui coûtent cher mais finalement pas tant que ça, que de s'atteler à un sujet beaucoup plus lourd, qui est aujourd'hui la place des couches populaires dans les villes, puisque il y a quand même ce basculement qui est historique. L'exode rural, c'était quand même des paysans qui venaient en ville, donc le peuple qui venait en ville pour travailler. Aujourd'hui, on a quand même une logique qui est les couches populaires à l'extérieur des villes. Donc il y a toute une symbolique là-dedans. Je veux dire, on est quand même sur une idée assez forte. Les couches populaires, aujourd'hui, dans une société post-industrielle, ne sont plus utiles au fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression que quelques métropoles hyper développées avec des cadres sup en masse peuvent finalement faire avancer l'économie française sans finalement avoir besoin de des couches populaires, des ouvriers, des employés, qui aujourd'hui sont véritablement les perdants de la mondialisation. Donc c'est ce débat qui est aujourd'hui occulté, et on préférera toujours, et je pense que ça risque de durer encore quelques années, vous présenter les territoires français comme étant des territoires qui opposeraient donc des quartiers difficiles à un ensemble qui moyennisé, qui irait finalement pas si mal, parce que politiquement c'est beaucoup plus simple à gérer. Sauf que on voit bien que les investissements dans les quartiers difficiles ne suffisent pas. Les émeutes de novembre le prouvent amplement, et surtout ne répondent pas au vrai besoin de fonds.
Chose sur la question, parce que tu l'abordais, de la possibilité pour une commune d'avoir une aide sociale, c'est en fait ça dépend de sa richesse. Or, d'où vient la richesse des communes aujourd'hui? Elle a deux sources principales. C'est la richesse fiscale au travers de l'impôt local, d'une part, et d'autre part, les aides de l'État. Alors, le périurbain, en termes de richesse, il est très mal doté. Parce que d'une part, la richesse fiscale, c'est-à-dire les impôts locaux, ça suppose qu'il y ait soit des habitants riches, soit beaucoup d'emplois. Or, dans les périurbains, il n'y a ni l'un ni l'autre. Les habitants ne sont pas très riches et il n'y a pas d'emplois. Donc, il n'y a pas de taxes professionnelles. Donc, les communes sont pauvres. Elles ont peu de recettes fiscales. Par ailleurs, les aides de l'État sont faibles parce que l'État intervient massivement sur les espaces urbains et aide majoritairement les espaces urbains, notamment au travers de l'intercommunalité, où il aide beaucoup plus les communautés d'agglomération, c'est-à-dire celles qui sont centrées sur les grands centres urbains, plutôt que les communautés de communes qui, elles, sont organisées dans les espaces ruraux. Le résultat de tout cela, il est très clair, c'est qu'une commune du périurbain, elle n'a quasiment aucun moyen, c'est-à-dire une fois qu'elle a payé les services de base, c'est-à-dire le fonctionnement des services urbains, de l'éclairage public, des égouts, etc., elle n'a pas la capacité à développer autre chose que du service de base, donc pas de services sociaux. Ce qui veut dire que les ménages qui vont être dans les difficultés vont être dans une grande difficulté et ils vont l'être seuls, parce qu'il n'y aura pas ce soutien public que l'on trouve aisément en ville au travers de l'assistance sociale, du centre communal d'action sociale, etc. Ces outils ne peuvent pas être développés dans le périurbain faute de moyens financiers. Alors Christophe abordait aussi la question des politiques publiques et de leur rôle dans l'ensemble de ces dynamiques. Je crois qu'on peut aller un tout petit peu plus loin en vous donnant quelques exemples pour vous montrer que finalement les politiques publiques, elles ont pu, à l'inverse, renforcer ce phénomène, au contraire de le traiter. Alors, premier élément ou premier exemple de politique publique qui a fortement contribué à aggraver cette crise du logement et ses dynamiques sociales, c'est la politique de rénovation urbaine. Alors, on comprend très bien que dans les années 70, les centres-villes étaient très dégradés, donc l'État a assez logiquement favorisé, de la part des collectivités locales et en particulier des communes, des politiques de rénovation. Ça s'est traduit par des opérations qu'on appelle en termes techniques des OPA. Vous avez peut-être déjà vu ces affiches qu'on voit en ville et qui consistent à aider les propriétaires financièrement pour qu'ils rénovent leur parc. Donc on comprend très bien que le principe, il est très bien, c'est éradiquer le parc insalubre, mais l'effet pervers, c'est que dans le même temps, ça fait disparaître ce parc qui avait cette fonction d'accueil social bien particulier. Donc on est là dans un paradoxe de la politique publique. À la fois, on veut résorber le parc insalubre et le parc indigne, c'est un objectif tout à fait légitime, mais dans le même temps, cela va amplifier la crise et le défaut de logement pour les populations modestes et donc renforcer ce phénomène de basculement du parc privé vers le parc social HLM. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, pour prendre quelque chose de plus récent et dans un autre domaine, c'est les politiques en matière d'urbanisme. Depuis 25 ans maintenant en France, on développe un principe qui est celui du renouvellement urbain. ce qu'on appelle en termes techniques le renouvellement urbain. L'objectif est de favoriser la croissance des villes sur elles-mêmes, c'est-à-dire sur les espaces qui sont déjà urbanisés par densification des espaces. Donc clairement, ça veut dire que les politiques publiques sont opposées à la périurbanisation. D'ailleurs, si vous êtes un peu attentif au discours, vous entendrez bien que quand on parle de la périurbanisation en termes politiques, c'est toujours pour en dire des choses très négatives. Que ça consomme trop d'espace, que c'est pas du développement durable, enfin bref, on a toute une thématique sur ce sujet-là. La conséquence de cet objectif central qui est le renouvellement urbain, c'est-à-dire faire de la croissance urbaine là où il y a déjà de la ville, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. On le comprend tous aisément, construire un immeuble en périphérie de la ville là où il n'y a rien, c'est assez simple, il faut acheter le terrain, on construit et voilà. Maintenant, quand il faut démolir ce qui existait déjà, recycler des terrains qui étaient occupés avant par des entreprises, on est sur des opérations qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont beaucoup plus longues. Et elle contribue d'une part à l'augmentation des prix du loyer et surtout à moindre de production du logement, donc à l'aggravation de la crise du loyer, du logement. Enfin, dernier exemple de politiques publiques qui peuvent aller à contresens, c'est les dispositifs de défiscalisation. Alors c'est très technique en termes de logement, ce sont toutes les procédures qui permettent à des propriétaires de payer moins d'impôts parce qu'ils ont investi dans l'immobilier. Donc le dernier produit fiscal, comme on dit en la matière, s'appelle le Deurobien. Donc ça permet à un propriétaire, en gros, de récupérer au travers des impôts jusqu'à 70% du prix du logement qu'il a acheté, à la seule condition qu'il le loue. Alors, l'objectif, et c'est pour ça l'objet de mon intervention n'est pas de critiquer les politiques publiques, mais de montrer comment elles peuvent, derrière un objectif qu'on comprend bien et qui est légitime, finalement avoir des effets pervers qui vont à contresens. En l'occurrence, le Deurobien, son objectif légitime, c'est de constater qu'il y a une crise du logement et d'essayer de trouver tous les moyens possibles pour relancer la construction neuve. Le problème, c'est que ces dispositifs sont des dispositifs inflationnistes parce qu'ils génèrent un parc de logements à haut loyer et donc ça ne permet pas d'accueillir les populations modestes et au contraire, ça booste les prix à la hausse. C'est un des effets, un des facteurs qui explique la crise du logement aujourd'hui en France et la forte explosion des prix. Elle est aussi liée à ces phénomènes de défiscalisation. Donc, évidemment, c'est aussi une façon de vous signaler que toutes ces choses sont très complexes. Vous avez bien vu que tout ça, c'est des jeux de conséquences, de facteurs croisés qui sont très difficiles à démêler et que la grande difficulté des politiques publiques aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans ce monde simple et beau qui était celui des années 60 et 70 où on avait des politiques de relance, ça relançait l'économie et voilà, tout roulait, c'était parfait. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes et il est très fréquent qu'un objectif légitime et une politique publique adaptée, au bout du compte, on se rende compte de divers effets pervers. C'est le cas aujourd'hui dans le domaine du logement qui traverse une crise assez grave, mais que ça, tout le monde a pu la constater, qui se traduit à la fois par l'augmentation des prix et puis par des grandes difficultés pour accéder au logement. Alors simplement, on ne vous a pas abreuvé de chiffres, mais celui-là, il me semble simple et significatif. Il y a aujourd'hui 5 millions de ménages français, donc en gros, ça correspond à entre 10 et 15 millions de personnes qui sont en difficulté par rapport à leur logement. Soit ils ne peuvent pas s'y maintenir, soit ils voudraient en avoir un, mais ils n'en ont pas. Il y a simplement déjà 2 millions de personnes hébergées, c'est-à-dire qu'ils vivent chez des gens qui les hébergent en attendant qu'ils trouvent une solution. Ce chiffre résume assez bien l'ampleur de cette crise du logement qui est aujourd'hui évidemment très très vive dans les grandes villes, mais aussi dans les villes plus moyennes. Et la Bretagne n'est pas à cet égard épargnée.
Un petit mot. Une conclusion.
Non, je crois que pour conclure... je crois que ce qui serait quand même ce qui m'apparaît comme étant le plus important, c'est la question du réinvestissement des pouvoirs publics, mais quand je dis des pouvoirs publics, mais je dirais plutôt de la sphère publique. Un réinvestissement, alors je dirais social, mais aussi politique, en direction des couches populaires. C'est-à-dire que les couches populaires, aujourd'hui, sont les catégories qui votent le moins, qui se syndiquent le moins, parce que quand vous regardez le taux de syndicalisation des ouvriers aujourd'hui, des ouvriers donc, il ne cesse de baisser, il est inférieur au taux de syndicalisation des cadres. C'est quand même un vrai problème de fond. De la même façon, si on prend le profil des gens qui s'investissent dans les associations ou même en politique, on est à chaque fois sur, là encore, des catégories, je dirais, supérieures ou moyennes supérieures. Cette question est centrale. On parle beaucoup de crise de la démocratie, mais si on n'arrive pas à trouver les moyens d'un réinvestissement de la sphère publique par ces catégories populaires qui sont, je le répète, majoritaires, on ne trouvera pas le début de la solution. Et ça passe par un débat politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si... moi, je suis assez frappé de... bon, par exemple, si on prend les, je parlerai pas du CPE, c'est un peu trop chaud, mais les derniers grands mouvements sociaux, ça a été les professeurs, les chercheurs, les intermittents du spectacle. Alors, moi, je trouve ça très bien de s'engager. Hein, c'est pas, je critique pas les mouvements sociaux ni les, mais en aucun cas. On a eu de mouvements sociaux portés par les couches populaires. Alors, je sais que là, je m'écarte de la question des territoires, mais finalement, pas tant que ça. Le problème, c'est que les couches populaires aujourd'hui, symboliquement, ne sont plus au cœur de la ville, mais elles ne sont plus non plus au cœur de l'espace public et de l'espace politique. Et je crains que la recomposition territoriale n'accentue encore plus le phénomène. C'est-à-dire que on ne parle que de ce qu'on voit. Bon, on rencontre, nous, beaucoup de politiques dans notre travail, donc qui connaissent très bien les centres, les villes-centres, pas mal les quartiers de banlieue, d'ailleurs, qui sont proches des centres. Et quand vous allez un peu plus loin... là, c'est le trou noir. J'attaque pas spécialement les politiques, d'ailleurs, je pourrais parler des journalistes et même des chercheurs. Je m'étais intéressé aux publications de thèses en France, c'est assez parlant. Toutes les cités de France et de Navarre ont au moins deux ou trois thèses décrites sur leur sujet. C'est-à-dire que n'importe quelle cité de Montpellier, de Lille ou de Paris va avoir eu trois ou quatre chercheurs qui, en gros, aura travaillé trois ans sur ces territoires. Inversement, vous prenez le périurbain, Les espaces ruraux, c'est intéressant parce que les espaces ruraux ont encore l'image d'espaces où vivent des agriculteurs, où il y a des beaux paysages. Or, l'espace rural, c'est aujourd'hui l'espace privilégié d'accueil de la classe ouvrière. Bon, donc c'est-à-dire que c'est un espace très social. Là encore, les thèses ou les travaux de recherche sur ces sujets-là sont quasi inexistantes. Le périurbain, bon, c'est encore plus vrai, parce que Christophe le disait tout à l'heure, le périurbain a en plus une très mauvaise image. Il y a l'idée finalement, que ce sont des espaces donc coûteux pour l'environnement, habités par des gens pas très sympathiques, qui sont repliés sur eux-mêmes, etc., etc. Donc c'est pas une image très très valorisante de la classe ouvrière finalement. On préfère la classe ouvrière mythique, celle qui n'existe plus, celle des années 30. C'est plus facile à gérer. Bon, il y a cette question qui est aussi une question qui est très fort à un niveau territorial, parce que si les couches populaires sont absentes des centres, elles seront demain encore plus absentes de la sphère publique. Parce que la sphère publique, ça passe aussi, malheureusement, par une occupation, je mets entre guillemets, des centres, des centres culturels et des centres politiques.
Non, je n'ai pas de conclusion particulière. Enfin, je crois que là, on a fait un peu le tour du sujet. Le plus simple, c'est peut-être de procéder ensuite par question, mais je crois qu'il y a une interruption entre les deux parties. Simplement, peut-être, je ne doute pas que dans les questions, ça vient souvent. Donc, je l'aborde un peu. La question des solutions. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons sur le thème du logement. Donc on a des solutions en termes de logement. Le problème, c'est qu'elles sont très coûteuses, parce que si on veut construire autant de logements sociaux qu'il y a de gens en difficulté d'accès au logement, on n'a pas fini de payer des impôts pour financer le logement social. D'autant qu'on en démolit pas mal à côté pour rénover les quartiers. Donc ça risque d'être très coûteux. Au fond et à la base, et là-dessus nos compétences sont limitées parce que nous ne sommes pas économistes, on voit bien que tout cela, c'est le résultat d'un chômage endémique et de difficultés de précarité dans l'accès à l'emploi qui se sont installés en France et de façon durable. Alors, c'est sans doute pas inéluctable, puisqu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ont des taux de chômage beaucoup plus faibles que nous, donc il y a probablement des manières de s'en sortir, mais c'est évident que tout ce qu'on vous dit là, la cause première, c'est ces difficultés d'accès à l'emploi, de précarité dans l'emploi, de chômage endémique, de chômage de longue durée. Tout ça, au bout d'un moment, ça sape les bases d'une société, et la France, après 30 ans d'un chômage de masse, 10% en gros, et encore quand on est dans les meilleurs moments, et sans compter ce qu'on appelle le chômage caché, c'est-à-dire les gens qui ont même renoncé à s'inscrire tellement ils n'ont plus de perspective d'emploi, forcément, un chômage à ce niveau-là ne peut que finalement déliter ce qui fait le rapport républicain. Alors à ce titre, je les ai évoqués tout à l'heure, mais nous, c'est une population qui nous paraît intéressante. Les travailleurs pauvres, c'est quand même un truc assez délirant de simplement y penser qu'on travaille et que tout en travaillant, le fruit de ce travail ne permet pas d'être autre chose que pauvre. On voit bien qu'il y a là quelque chose de ce qui était un contrat social qui n'existe plus. Si travailler ne suffit pas à subvenir à ses besoins, c'est que véritablement il y a un problème de fond sur la sphère du travail.
Bien, merci déjà pour ces deux conférences. Donc nous allons faire maintenant une pause d'un quart d'heure. Et vous pouvez vous procurer les ouvrages de M. Guy-Louis et M. Noyer. Et ils se feront un plaisir aussi bien de vous les dédicacer. Et vous pouvez aussi préparer vos questions par oral ou par écrit. Voilà, à tout à l'heure.